Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, une nouvelle heure que nous allons passer en compagnie de notre invitée. Elle est venue ce matin de Côte d'Or voisine, plus précisément de Liernay où elle réside. On la connaît dans les salons du livre en Bourgogne sous son nom de plume Pauline Barroyer, mais pour l'état civil, elle est Paul Bertrand. En tout cas, Pauline Barroyer et Paul Bertrand sont une seule et même personne, une personne délicieuse, passionnée de culture et de littérature, une passionnée de Jean de La Fontaine qu'elle place au plus haut point. Nous la recevons aujourd'hui pour faire non seulement connaissance avec elle, mais aussi pour découvrir son œuvre littéraire, deux romans, Délices et désillusions, ainsi que les sycophantes disponibles aux éditions Lacassine. Nous avions reçu Pauline Barroyer au mois de décembre dernier sur Radion dans Wagon Livre, une émission au cours de laquelle elle avait lu un certain nombre de contes de Noël qu'elle a fait paraître dans plusieurs recueils. Paul Bertrand, Pauline Barroyer, signe également un recueil de nouvelles intitulé « Correction » et plus récemment, elle a livré un récit historique intitulé « Laurent Bureau, pâtre passeur d'âme, l'histoire d'un petit berger né à Liernay vers 1445, formé au Carme à Dijon et à Paris au quartier latin, il deviendra confesseur des rois. » En tout cas, tout cela est à découvrir aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion. Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on ouvre cette émission par une première pause musicale.
Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je plonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble. Que même tu ripostes, alors fonce sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Poison d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain. Et je donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin. Prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne en air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin prêt à rester sur terre que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous de ces pires ta mère à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Après cette séquence musicale, il est maintenant temps de commencer l'émission avec notre invitée, Pauline Barroyer. Pauline Barroyer, agrégée de lettres modernes, qui réside en Côte d'Or, très précisément à Liernais, qui a déjà signé deux romans intitulés « Délices et désillusions » ainsi que « Les sycophantes » parus aux éditions La Cassine. Pauline Barroyer, vous avez eu la gentillesse de venir en décembre dernier dans Wagon Livre lire des contes de Noël dont vous êtes l'auteur et qui sont rassemblés dans 5 à 6 recueils disponibles aux éditions La Cassine. Et plus récemment, vous avez écrit un récit historique intitulé « Laurent Bureau, pâtre, passeur d'âme ». On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler en fin de notre émission. Mais dans un de vos contes morvandiaux, dans un conte intitulé « Le récit du colporteur », vous revenez sur la figure du curé Hilaire de Leneau. C'est donc une histoire historique.
Alors, permettez-moi de féliciter mon cher Yannick, parce que il achète des livres, il en a plein sa bibliothèque, mais il les lit. Et en effet, vous avez raison. Figurez-vous, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un journaliste du Bien Public de Dijon qui était venu à Brazin-en-Morvan pour essayer de... qui a dû sortir un petit... qui a dû faire un petit travail là-dessus, une sorte de mini-thèse sur ce curé. Oui, Philibert de Leneau. Il devait être du temps de Louis XIII. Et c'est effectivement... il y a eu une édition au début du... dans la première moitié du XXe siècle d'un homme qui s'est passionné, qui a recherché là-dessus. Effectivement, le curé Philibert de Leneau a été accusé de sorcellerie et il a été brûlé.
Alors en fait, c'était juste un simple sourcier plutôt, si j'ai bien lu. Dans votre conte, vous en faites un sourcier.
Oui,
il ressent des présences qui passent sous les églises.
Je suppose, parce que vous savez, on croyait peut-être encore au XVIIe siècle aux sorciers, et alors les archives elles doivent être à Dijon maintenant, je ne sais, Brazin-en-Morvan dépendait de l'évêché d'Autun à cette époque-là, avant de dépendre de Dijon. L'évêché de Dijon n'existe que depuis après la Révolution, je crois. Et donc, il y a eu une enquête très, très sérieuse qui a été faite. Et je crois que alors, il faut savoir que les curés jusqu'à la fin du XVIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les curés de campagne n'avaient reçu aucune éducation. C'est à la fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV, c'est ça, il est mort en 1715, Louis XIV. Sous Louis XIV, que se sont créés les séminaires qui n'existaient pas auparavant, sauf dans certains collèges. Mais les braves curés de campagne, vous savez, je crois, devaient faire leur sermon en patois, connaissaient le latin tout juste, et avaient eu en revanche des connaissances, peut-être des plantes, peut-être étaient-ils capables de soigner des animaux. Peut-être, c'est eux qui avaient peut-être le rôle de médecin. Voilà. Et par conséquent, s'ils étaient capables de savoir quelque chose sur les plantes qui sauvent, Eh bien, d'ici, on est tout près de celui qui lui veut du mal, de l'accusé de sorcellerie. Et je pense que le malheureux Delnau a été condamné comme ça. D'autre part, je sais qu'il avait un bistrot. Hein. Enfin, on ne disait pas bistrot à l'époque. Hein. Il devait avoir une auberge. Hein. Et puis, vous savez, était-il marié? Il faut bien comprendre que la rigueur naît sans doute à peu près au temps de Louis XIV. Enfin, et va progressivement.
En tout cas, ce personnage a été victime d'une dénonciation. Et ça rejoint un peu cette thématique que vous développez dans les sycophantes.
Ah oui, je n'y aurais pas pensé, mais effectivement. Et par intérêt, certainement. Mais les dénonciations se font toujours par intérêt, je pense.
Et vous écrivez, le supplice eut lieu sur la grande place Saint-Ladre, au milieu de la ville d'Autun. Un bûcher sommaire y était dressé. Oui. Nombre de paysans étaient là, en sabots, un bâton noueux à la main. Oui. Peut-être qu'ils avaient pu réunir un peu d'argent pour que le bourreau étouffe le malheureux avant de porter la torche au bûcher.
Alors ça, je le tire de l'histoire. Les archives de l'évêché ne disent pas tout ça. Mais vous savez qu'effectivement, avant de mettre le feu, on payait le bourreau qui étouffait, et de façon que l'homme ne meure pas, ou la femme, car les femmes aussi étaient accusées de sorcellerie, ne meurent pas de brûlure, mais d'étouffement.
Parlons peut-être de choses plus joyeuses, plus réjouissantes. Dans un grand nombre de vos recueils de contes, Pauline, vous parlez beaucoup des animaux, ils sont omniprésents. Oui. Je pense aussi aux oiseaux de la forêt Morvandelle.
Oui.
Vous y êtes particulièrement sensible et vous parlez de leur chant vraiment avec enchantement.
Oui, alors c'est très joli ce que vous dites. Je n'ai pas grand mérite. C'est mon mari qui aimait les oiseaux et les connaissait. Et savait, et mes enfants, à la suite, savaient dire « ça, c'est la grive musicienne ». Là, le coucou, tout le monde connaît. Le loriot. Le loriot, vous savez, ne chante pas partout. Il lui faut de très grands arbres, il lui faut des vergers, et on ne le voit que très peu. Et il vient très tard, il vient au 1er mai et au 1er août ou au 15 août, il est déjà reparti. Mais il siffle une mélodie inimaginable, inimitable. Oui, c'était grâce à mon mari, oui.
Pauline Barroyer, pourquoi avoir choisi le genre littéraire du conte, qui est plutôt un genre littéraire bref? Or, faire court, parfois, c'est difficile quand on écrit.
Ah oui, oui, et je vous ai offert un livre de nouvelles. Je serais curieuse que vous les lisiez. Oui, vous savez, la nouvelle est effectivement un roman bref. À la condition que, la dame dont vous me parliez,
Lucette Desvignes,
en est spéciale, justement, à la condition qu'il y ait une chute, c'est-à-dire un dernier petit paragraphe qui étonne. Voilà. Alors, je vais vous raconter tout simplement. Bon, nous étions des universitaires. Moi, j'avais travaillé, j'étais une grammairienne, et j'avais donc travaillé avec un professeur qui s'appelait Robert Loriot, et qui a exercé à Dijon, et qui avait sollicité le plus grand nombre d'étudiants possibles pour avoir des enquêtes en dialectologie. Et donc, moi, j'ai pu, à cette époque-là, faire des enquêtes auprès de gens qui étaient nés en 1880 à peu près, puisque je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Edmond Morel, qui avait fait la guerre de 14. Et ces gens-là, alors tout est parti de là, je finis quand même ma phrase. Donc nos travaux universitaires, le mien, le patois de Brazan-Morvan, puis mon fils a fait la même chose sur le patois de Liernais, il a fait un lexique, alors lui d'une autre manière, il a recherché toutes les origines, montrant combien de mots de la langue du patois sont issus directement de l'ancien français. Et puis ma fille, qui était en histoire de l'art, a fait un travail extraordinaire, elle a fait une thèse. Un travail extraordinaire sur Barre le Régulier, dont les stalles du XIVe siècle sont d'une beauté. Voilà. Nous avons donné à une association ces travaux-là. Elle les a édités, toujours sans droit d'auteur, sinon elle n'aurait jamais pu. Et puis souvent en payant, en aidant à l'impression. Et comme elle avait fait ensuite une thèse énorme, en 6 ans, une thèse d'une importance capitale sur les sculpteur et les ateliers de sculpture au temps des ducs de Bourgogne. Le duché de Bourgogne, il allait loin, hein. Il faisait toute la grande région et puis il remontait très haut, là-bas du côté des Flandres. Eh bien, j'ai dit, alors, mais je vais vous écrire des comptes pour donner de l'argent, pour procurer de l'argent à l'association, de façon qu'elle puisse éditer cette énorme thèse. Eh ben non, mes comptes n'ont pas eu le succès. Les romans non plus, on n'a pas encore pu. Et vous savez, j'avais demandé à la région. Mais on m'avait répondu avec beaucoup de hauteur que ben, on favorisait plutôt les vraies maisons d'édition, une association. Voilà. Alors c'est comme ça que tout est venu.
Alors vous aimez inventer des histoires. Oui. Et dans vos contes, notamment, il y a un merveilleux chrétien d'une certaine manière. Mais il y a peu de fées. Le oui. diable rarement,
oui.
De temps en temps, de oui. temps en temps. Ou alors oui. un diable qui apparaît sous une forme animale, un animal féroce, cruel et dangereux, donc forcément.
Oui, oui. Finalement, j'ai plus souvent... Alors, le premier, c'est uniquement des histoires d'oiseaux. C'est le bas perso. Alors, les titres, ce sont des noms de lieux dits. Vous savez, quand on a étudié justement le patois, les dialectes, enfin le dialecte, on s'émerveille des noms de lieux dits parce qu'ils sont vieux, très vieux. Ils sont bien plus anciens que toute la littérature qui a pu être faite dans ces régions-là. Et ils sont restés. Et ils ont un sens, quelquefois on en connaît le sens, d'autres fois non. Et c'est comme ça que le Bas-Person, c'est une petite forêt qui se trouve entre justement dans la région de Brazier-Morvan. Ailleurs, la Gravotière, oh, c'est un étang à côté de Liernais, en dessous de Liernais, qui est vieux parce qu'on en trouve une dame de Saulieu possède au Moyen-Âge l'étang de la Gravotière. Puis, Champ-la-Fille. Alors j'ai aimé, c'est à Barboyer, dans ce petit hameau, qu'il y a un champ qui s'appelle le champ la fille. Or, quand il y a construction directe du nom de la personne, c'est que c'est une personne d'importance. C'est Choisy le roi, c'est Bourg la reine, c'est la chaise Dieu, etc. Alors, champ la fille, ça veut dire que cette fille-là, on ne le saura jamais, peut-être était-ce la propriété d'une fille du comte de Nevers qui était propriétaire à cette époque-là de toute la région. Alors, je ne sais pas. Alors donc, j'ai donné ces titres-là. Et puis le colombier, alors il y a une plus belle histoire pour le colombier, c'est une petite forêt. Et j'ai dit, si la petite forêt s'appelle le colombier, c'est qu'il y a eu un colombier. S'il y a eu un colombier, c'est qu'il y a eu un manoir à côté. Alors, j'ai peint un petit manoir, j'ai peint un colombier et j'ai raconté des histoires. Seulement, dans le colombier, c'est le dernier. Et j'ai repris des histoires vraies. C'est-à-dire, par exemple, alors que ça se passe... Ouf, je ne sais pas, au 15e siècle peut-être, hein, 16e siècle, peu importe, ce n'est pas défini. J'ai utilisé l'histoire de Brazier-en-Morvan qui, le croirez-vous, a brûlé. Tout un hameau de Brazier-en-Morvan a brûlé en mars 1914, quand on sait ce qui attend. Et quelques mois plus tard, parce que au mois de mars, une femme a dû faire un grand feu pour faire bouillir sa lessive, je ne sais, et elle a mis le feu à sa chaumière, au chaume de son toit, et comme il y avait un grand vent du mois de mars, toutes les maisons aux environs ont brûlé. Alors donc, j'ai repris ce thème-là. Et puis, Alors finalement, à part ces animaux, la première fois à qui j'ai prêté des sentiments, le bouvreuil qui est un sage, la pigrièche qui est un mauvais oiseau, méchant. Eh bien, autrement, c'est souvent une atmosphère de veillée.
On se rapproche des fables de La Fontaine.
Ah oui.
Le lien
est assez facile à faire,
me semble-t-il.
Eh bien, j'y avais même pas pensé.
Cette mise en scène d'animaux des valeurs, des vertus, mais aussi des défauts. Finalement, vous êtes dans l'esprit de Jean de La Fontaine.
Oui, j'ai une admiration infinie pour Jean de La Fontaine, c'est vrai.
Pauline Boisroyer, en fait, vous êtes une passionnée de littérature et notamment de Jean de La Fontaine. On peut effectivement relire Jean de La Fontaine. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Radion et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous suivre avec, j'espère, passion et de découvrir l'œuvre de notre invité. On revient dans une poignée de minutes, juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour sur les banquettes de Wagon Livre avec ce matin notre invitée Pauline Barroyer, qui est l'auteur de deux romans, notamment Délices et Désillusions, ainsi que Les Sycophantes, disponibles aux éditions Lacassine. Et puis, en fin d'émission, un petit peu plus tard, nous parlerons de votre dernier récit historique intitulé Laurent Bureau, pâtre, passeur d'âme, l'histoire de ce petit berger né au milieu du XVe siècle à Liernay, en Côte d'Or, et qui est devenu confesseur des rois de France. Pauline Barroyer, n'avez-vous pas une certaine nostalgie de la vie d'autrefois, et notamment du temps des veillées dans les chaumières morvandelles, des moments intenses, chaleureux, où l'on jouait, où l'on chantait, où l'on riait? Vous n'avez bien sûr pas connu cette époque, mais vous aimez les ressusciter dans vos contes.
Alors, il nous faut, je le dis quelquefois dans les contes, il nous faut bien nous mettre en tête que les gens d'autrefois n'étaient ni meilleurs ni pires que nous ne sommes. Simplement, ils avaient besoin les uns des autres. Par conséquent, ils étaient bien obligés de se ménager. Ce qui n'empêchait pas les femmes d'avoir la langue pointue. Comme je le disais dans un conte, les meuniers étaient très mal réputés autrefois parce qu'ils devaient se payer en prenant ce qu'on appelait la mouture, c'est-à-dire une poignée, je ne sais, une quantité de grains ou de farine. Et souvent, d'ailleurs, ils étaient beaucoup plus riches. Le forgeron avait des secrets. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'un forgeron d'autrefois gardait les noyaux de cerises parce qu'il les mettait dans la braise et il pouvait travailler je ne sais quel métal de la sorte. Allez donc savoir. Voilà. Donc ils avaient des secrets. Donc ils étaient un peu les patrons du village. Mais ils avaient besoin les uns des autres. Même le forgeron qui lui aussi avait sa vache et puis son foin à faire. Et donc l'éveillé les réunissait par souci d'économie. Parce que la chandelle coûtait cher. Vous savez que les maisons d'autrefois, très anciennes, hein, plus que le XXe siècle, c'est la guerre de 14 qui fait la grande charnière entre deux époques. Eh bien, souvent, il n'y avait pas de fenêtre. On était obligé d'entrebâiller la porte pour avoir du jour. Et c'était la cheminée qui donnait la lumière. On se couchait très tôt et on se levait très tôt. Enfin, on vivait avec le soleil, finalement. Or, c'est pourquoi dans tous les contes, je dis toujours qu'ils sont émerveillés lorsqu'ils entrent dans la chapelle ou dans l'église de voir toutes les lumières des bougies. La chandelle, c'est pour les petites gens. La bougie, c'est avec la cire. La chandelle, c'est avec le suif.
Et vous savez aussi, Pauline, faire renaître des professions aujourd'hui totalement disparues. Bon, les bergers, les bouviers, oui. Les laboureurs, oui. Forgerons, oui. Sabotiers, oui. Et les brassiers. Que sont les brassiers?
Ce sont alors on dit les manouvriers, ce sont ceux qui n'ont que leurs bras.
Prolétaires, finalement, d'une certaine manière.
Oui. Ah, est-ce que vous savez d'où vient le mot prolétaire? Prolès en latin, c'est les enfants, c'est la famille. Le prolétaire, c'est celui qui n'a que ses enfants. Eh ben, le brassier, c'était la même chose, et ses bras. Parce que, vous savez, ce qu'on appelait le laboureur, c'était le paysan qui était assez riche pour avoir deux bœufs et une charrue. Et alors donc, il avait tous ceux qui n'avaient pas de bœufs avaient besoin de lui et ils payaient en journée de travail. Ils payaient avec leurs bras. Ils étaient les brassiers.
Voilà. Alors, vous faites aussi beaucoup renaître des termes de notre belle langue française, des termes un petit peu vieillis, oui. Mais que vous aimez remettre au goût du jour grâce à l'écriture.
Oui, et vous voyez dans les contes que j'ai lus, je n'ai pas osé reprendre le mot marguillier, j'ai mis sacristain.
Je l'ai entendu effectivement et je me suis rendu compte que vous l'aviez évité de peur que nos auditeurs ne comprennent pas.
Oui, mais bon, vous avez
raison. Ceci dit, vous mettez toujours, il y a comme un petit glossaire à la fin de chaque conte, ce qui nous offre quand même la possibilité d'enrichir notre vocabulaire.
Figurez-vous qu'il y a du côté de Rouen, je crois entre Parelmonial et Rouen, dans la Loire déjà, je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais, je dis encore instituteur, hein, parce que l'instituteur, c'est celui qui institue les enfants, donc qui les forme. Eh bien, un instituteur qui a mes livres de contes, peut-être bien tous même, et qui doit en extraire peut-être des petites dictées ou peut-être des passages. Et alors, dans les deux derniers ou les trois derniers, je mets désormais des explications. Justement, le mot brassier, il serait... J'ai supprimé aussi le mot messier. Les messiers étaient les surveillants qui allaient compter le nombre de gerbes le jour de la moisson parce qu'il y en avait une dîme, une partie qui était réservée au Seigneur. Je crois que j'ai mis ici surveillant, j'ai pas dû mettre messier. Et alors justement cet instituteur, pour lui, je mets quelques explications.
Alors vous aimez aussi évoquer la chasse, l'activité des hommes. Bon, oui. La chasse, je ne sais pas si vous êtes partisane de la chasse. Je pensais à Lucette Devine qui déteste particulièrement les chasseurs.
Ah oui.
Et vous racontez justement, c'est dans un conte intitulé « Le cerf pèlerin Grand Mongeux ». Et je voudrais peut-être vous demander, Pauline, de nous expliquer ce qu'on appelle un cerf pèlerin.
Eh bien oui, un cerf pèlerin, je crois que ce sont les cerfs qui sont vieux, c'est-à-dire qui ont 10 ans, qui quittent leur harde et partent et vont de harde en harde et se battent. Andouiller ramure contre ramure, parce que quand ils vont de, d'une forêt à l'autre, ils rencontrent d'autres hardes où, dont le cerf est le, un autre cerf est le maître, et c'est la lutte. Et très souvent, eh bien, justement dans mon histoire, le, ils finissent par emmêler leurs andouillés de telle sorte que ils meurent comme ça.
Alors dans ce conte, donc, il y a Monsieur de Monjeu donc, qui part à la chasse de ce cerf pèlerin. Et il y a Monsieur Voltaire qui apparaît, car nous sommes en 1734.
Bravo, vous êtes extraordinaire. Vous êtes un vrai lecteur et vous êtes vraiment bien à votre place dans, cette, dans vos émissions littéraires. Oui, parce que figurez-vous que alors, dans les lettres philosophiques qui s'appelaient d'abord les lettres anglaises, la première a été écrite à Monjeu. Si on recherche une édition ancienne, on verra Monjeu. Ben alors vous vous dites Monjeu.
Donc Monjeu se trouve alors
au-dessus d'Autun. C'est un très beau château. Très beau château qui, oui, bon non, je ne saurais pas retrouver les noms, donc je ne me hasarde pas, mais donc qui existait, qui doit être du XVIIe siècle, je pense, et c'est au XVIIIe siècle que Voltaire y a été invité. Il était toujours en bisbille avec des tas de gens à Paris, et c'est pour ça qu'il était parti en Angleterre.
Et c'est amusant d'ailleurs, Pauline, parce que cette fuite du cerf me rappelle aussi un peu la fuite de certains intellectuels français, et notamment Voltaire, qui a été contraint d'aller se réfugier. Ou Rousseau aussi.
Mais
et
oui.
C'est amusant, cette fuite du cerf
Mais
et
oui.
cette fuite de ces figures littéraires du XVIIIe siècle, poursuivies par la censure ou par le pouvoir royal, tout simplement.
Mais tout à fait.
Pensons aux encyclopédistes, par exemple, dont certains ont eu quand même maille à partir avec la justice, le Parlement.
Oui, et l'encyclopédie qui se publiait aux Pays-Bas, et qu'on ramenait sous le manteau, qu'on rapportait.
Alors, pour revenir à la richesse de votre écriture et à sa beauté, si vous me le permettez, Pauline, je voudrais lire à nos auditrices et auditeurs un paragraphe concernant la fuite de ce cerf qui est poursuivi par tout un groupe de chasseurs. C'est une chasse à courre, donc. Il fuit, le grand cerf, au travers des forêts qui couvrent au nord les flancs du mont. La ramure couchée sur l'échine, il se fraye une voie sans que les basses branches puissent l'arrêter. Il évite les routes des hommes et son instinct le guide au plus épais des bois. Il pérégrine, le grand cerf, et quand déjà la nuit l'invite à ralentir son train, il s'écarte pour brouter dans les champs, le blé en herbe ou bien les raves qui n'ont pas encore été récoltées. Lorsque les rougies du soleil levant éclairent enfin un massif de ronces couvert de gelée blanche, c'est là que le cerf s'accorde une reposée.
Oui.
Comme c'est beau.
Oui.
Et bien vous flirtez aussi avec une langue qui n'est plus celle du 21e siècle, mais qui serait une langue ou du 17e ou du 18e siècle. Donc les époques classiques, et ça vous séduire et vous envoûter, Pauline.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et figurez-vous que nous avons beaucoup de mots qui viennent de la chasse, du domaine de la chasse. Quand vous dites « aller sur les brisées de quelqu'un », les brisés, c'est ce que le piqueur, va le matin très très tôt dans la forêt pour repérer le passage. Et il casse des petites brindes, des brindes de feuilles, des branchettes, pour repérer, pour qu'ensuite on suive. Alors je voudrais vous répondre, je ne suis pas chasseur. Mon papa n'était pas chasseur. Mon mari n'était pas chasseur. Ni mon grand-père. Mais je sais que les animaux doivent être... Il n'y a plus de loup. C'est le loup qui régulait en quelque sorte et qui mangeait en particulier, tuait les animaux malades et ceux qui étaient vieux. Voilà. Maintenant, la dame qui n'aime pas qu'on tue les animaux, je pense qu'elle ne se promène pas en voiture les soirs par les temps qui courent. Parce que si elle avait heurté un sanglier avec sa voiture, elle serait dans une fâcheuse situation. Ou alors, il faut qu'elle aille très lentement pour prévoir. Parce que malheureusement, les animaux vont... Un cerf est un animal extrêmement dangereux. Les gens qui vont écouter le brame au mois d'octobre se cachent, mettent leur voiture pas très loin. Parce que un cerf, c'est un taureau. Je suppose que vous, comme moi, n'êtes jamais allé ramasser des champignons quand il y a un taureau dans un pré.
Non.
Eh bien, le cerf est aussi dangereux que le taureau, surtout en période de brame. Et puis, vous voyez bien, il y a une prolifération de chevreuils. C'est beau, le chevreuil. Seulement, quand ils viennent dévorer complètement mes rosiers, ben, je me dis, ah, j'aurais un fusil avec une cartouche au sel, je te lui en enverrais dans les fesses de façon qu'il court bien loin.
Mais vous dites cela sous le coup de la colère.
Oui, mais bon, je serais bien incapable de... Mais je veux dire, il faut réguler. Si les cerfs n'étaient pas, les vieux cerfs n'étaient pas tués, il n'y aurait plus de forêt, car ils détruisent tout. Il faut c'est curieux cette histoire de leur bois qui se couvre de velours au printemps. D'abord, ils perdent les bois, puis ils repoussent. Ils se couvrent d'une sorte de velours et il faut qu'ils enlèvent absolument cette peau et se frottent contre les arbres. Et ils enlèvent ils abîment les arbres.
Pauline Barroyer, si vous le voulez bien, on va marquer une nouvelle petite pause musicale à bord de Wagon Livre. Merci à vous d'être ce matin devant le micro de Wagon Livre. Je rappelle que vous êtes agrégé de lettres, que vous résidez en Côte d'Or, très précisément à Liernais, et que vous êtes venu nous présenter vos contes, vos romans, et également vous êtes venu défendre et illustrer notre belle langue française. C'est Wagon Livre sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi et on se retrouve juste après avec notre invité.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûle leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. Force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi.
Serre-moi encore, serre-moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Pauline, le temps passe. J'aimerais revenir avec vous sur votre dernier roman. C'est le deuxième. Le premier, Les Sycophantes, paru aux éditions La Cassine. On en a parlé. Oui. Histoire d'un homme accusé de pédophilie, un journaliste qui rentre en scène et qui sent que cette histoire est un peu montée de toutes pièces et qui a deviné que cet homme est victime d'une dénonciation calomnieuse.
Calomnieuse, oui.
Peut-on maintenant vous demander, Pauline, de parler de votre deuxième roman qui a pour titre « Délices et désillusions » qui se situe dans les années 1950.
Bravo, exactement. Je dois vous corriger, c'est celui-là qui a été...
C'est le premier,
oui,
en fait.
C'est le
Délices
premier
et désillusions voilà, voilà, et les Sycophantes et le second. Pardon, Pauline.
Oh, je vous en prie. Tout se suit à un an hein, d'espace. Alors, j'ai beaucoup aimé, dans mon enfance... un château, mais qui n'était pas du tout un château fort ni rien du tout. Non, non, c'était un château de 1870. Vous savez, ça a été une période glorieuse, je crois, au temps de Napoléon III, car il y a eu des... je crois que les bourgeois ont gagné beaucoup d'argent.
Oui, il y avait un capitalisme, effectivement, qui a enrichi la France.
Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il s'est construit des églises qui avaient été ruinées par la Révolution. Et il y a eu un essor extraordinaire. De ce temps-là date ce château. Et puis, j'entendais parler par mes grands-parents des propriétaires, des gens qui étaient très gentils. Alors, j'ai donc inventé l'histoire de ce souvent d'ailleurs, ces petites noblesses de campagne étaient souvent des officiers. Voilà. Alors donc, j'ai imaginé cet officier qui vit donc dans la première moitié, on va dire dans 1950. Voilà. Il termine sa carrière, il était dans la cavalerie. Je l'ai même fait être officier au lycée, ce qu'on appelait à l'école de cavalerie à l'époque, à Autun. Et puis, donc, fini le temps des garnisons, il rentre dans le château de ses pères. Mais sa femme est d'ailleurs d'origine parisienne, sa tante habite toujours à Paris. Et quand vient l'hiver, il fait froid dans le château. On a beau allumer des feux dans les cheminées, on a beau avoir une grosse cuisinière dans la cuisine en bas, au rez-de-chaussée, il fait froid. Et elle ne rêve que de repartir à Paris. Alors, elle va donc un mois chez sa tante à Paris. Et puis, c'est un monde de salon. Et je m'amuse à lui... Ils ont le téléphone, bien entendu. Et quand elle téléphone à son mari, elle le vouvoie. Et son mari la tutoie, comme ils ont l'habitude de se tutoyer. Vous voyez, pour accentuer en quelque sorte. Et puis... elle tombera sous l'influence d'un nègre fin. Quand je dis ça, on me dit mais qu'est-ce que c'est un nègre fin? Oui, mais écoute, c'est un bandit de petit chemin.
Alors, un
nègre fin, c'est un escroc, exactement. Voilà. Et puis, ça s'appelle Délices parce que je l'ai fait marier dans la Loire, justement, tout près de Charlieu. Charlieu, c'était le pays des tissages. Je crois bien que la reine d'Angleterre actuelle, donc qui est une vieille dame maintenant, a eu sa robe de mariée tissée dans les métiers de Charlieu. Alors donc, tout commence là, à Charlieu, et il y a Délices qui embaume le château où a lieu ce mariage. Et il y aura toujours Délices. Il y en a dans le jardin du château où elle habite désormais, en Morvan, parce que le jardinier lui cultive les lys, lui en offre des bouquets qu'elle met sur les cheminées du salon. Et puis, il y aura des lys aussi à la fin.
Délices et désillusions.
Oui, parce que c'est elle qui a des illusions.
Belle allitération.
Ah oui, un petit peu.
Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, Pauline Baroyer, sur votre recueil de nouvelles intitulé « Correction ». Oui. Au pluriel, la oui. correction. Oui. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors vous savez, la tradition veut que, je crois que tout le monde ne le respecte pas forcément, la tradition, je crois, veut qu'on donne toujours le titre de la première nouvelle à l'ensemble, au recueil. Et donc j'ai appelé correction, et une histoire vraie, d'un petit garçon qui... Et chez son père est une personnalité dans la ville, mais le couple s'est séparé et la seconde mère n'est pas très douce. Elle est, elle est un petit peu dure avec les enfants qui ne sont pas les siens. Et elle est très sévère. Et elle est très exigeante avec des mœurs d'autrefois. On ne doit pas dire ceci, etc., etc. Et le petit bonhomme ne rêve que de retourner chez son grand-père où l'on entend chanter le loriot. Mais il est tenu de rester chez lui. Puis alors, il entre en sixième. Et voilà qu'il a un professeur à la mode un peu 68arde qui n'apprécie pas ses rédactions parce que il écrit un si joli, d'un si beau style, parce que lui ne rêve que de forêts, que d'oiseaux, comme chez son grand-père, que le professeur de lettres lui dit. Mais arrête avec tes histoires, enfin, parle-nous de choses plus importantes. Non, ces années dernières, il n'y a pas eu des choses importantes en France. Et il est toujours maltraité. Et un jour, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré à la maison. Il n'est pas allé au lycée. Et alors, on a prévenu la gendarmerie. On a, deux jours qu'on le cherche. La mère, le père sont affolés. On est auprès du téléphone. Et qui va retrouver le petit bonhomme ? C'est le professeur de français. Il est en deux chevaux. C'est le proviseur qui lui a dit « Oui, si vous voulez qu'on en reste là, hein, vous allez, vous aussi, essayer de chercher le petit. » Et il le ramène. Et puis, voilà qu'il a eu la meilleure note de dissertation, de rédaction. Les corrections lui ont été favorables.
En tout cas, je prends conscience que... Les enfants mal aimés ou les hommes injustement condamnés, finalement, je reviens à Voltaire, l'injustice vous est insupportable.
Oui. Ah, moi j'ai été élevée dans une famille à la mode d'autrefois. Mes grands-parents étaient tout près. On était 5 petits. Mes parents, mon autre grand-mère est venue. Mais je me rends compte que ma maman avait une tablée de 6, 7, 8 personnes. Et voilà, alors bien entendu on se chamaillait comme partout, mais quand même, alors moi quand on m'a mise en pension, j'ai cru que je ne reverrais jamais, j'étais petite, j'avais 10 ans, que je ne reverrais jamais mes petits frères. Je regardais les étoiles et je me demandais si ils voyaient les mêmes étoiles que moi. Vous voyez, alors pour moi l'atmosphère de famille, même sur ce querelle, même si on se fait gronder par les parents, si on reçoit une calotte de temps en temps et puis une fessée au besoin, c'est irremplaçable.
Alors, pour ou contre la fessée ?
Mais il faut qu'elle soit bien donnée, et puis pas méchamment, au bon moment. Mais bien sûr, quelle folie de dire des choses pareilles. Je me souviens quand mon petit garçon allait toucher les boutons de gaz, la cuisinière à gaz, je lui donnais une tape sur la main. Et après, il allait vers la cuisinière et il disait « Non, non, non !» Voilà. Et enfin.
Pauline Boisroyer, quelle a été votre dernière lecture ?
Ah, c'était, oui.
Un essai, un roman ?
Non, c'était... Ah, parce que mon dernier ouvrage se passe au XVe siècle et ça n'est plus un roman, mais j'ai donné la parole à un personnage qui a existé au temps des rois Charles VIII et Louis XII. Et puis, j'ai redécouvert... Je ne vais pas vous retrouver le nom d'un historien le Moyen Âge.
Favier.
Non, bien plus ancien que ça, début du 20e et première moitié du 20e. Brentano, Funk Brentano, peu connu. Et c'est dans ma bibliothèque, c'est un héritage. Et j'ai relu ce qu'il écrit de Louis XI. Et c'est lui qui m'apprend que Comines a rapporté cette parole de Louis XI qui prend toute sa valeur aujourd'hui. Louis XI parlait de son cousin Charles le Téméraire. « Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près. » Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près.
À méditer.
Ah oui, que pouvons-nous ajouter? Voyez, vous me parliez de modestie. L'orgueil, c'est la pire des choses.
Est-ce que notre actuel président de la République manque de modestie?
Oui. Oui. L'orgueil le perd. Comprenez-vous, il n'a pas eu un papa, une maman qui avait bien du mal quand même pour joindre les deux bouts avec 5 enfants. Nous étions du petit monde. Mais ma maman me citait La Fontaine. Et quand l'un de nous était en colère, elle disait « La colère était à son fait montée ». Je ne sais plus dans quelle fable c'était. Et puis elle disait aussi des gens qui étaient toujours heureux de leur progéniture. « Mes petits sont mignons, beaux, jolis, sur tous leurs compagnons. » Je crois que c'est dans L'Aigle et le Hibou. Ma maman disait ça. Bon, ben, c'était aussi, ben vous voyez bien, c'est La Fontaine. Mais je pense que quand il faut beaucoup de modestie, même si on a eu des parents très riches, des parents médecins comme lui, le tout s'est ouvert pour lui facilement, il a fait des études, il n'a pas eu à travailler pour être étudiant, tout était simple. Mais il faut toujours revenir en arrière, parce qu'on a toujours, toujours des paysans dans ses ancêtres. Toujours. Et il faut revenir en ce temps-là. Et se dire quand tout sort des mains, quand on n'est jamais sûr vraiment du lendemain. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, quand c'est idiot, mais quand je mets en route ma machine à laver, la vaisselle, ce n'est pas forcément utile, mais la machine à laver le linge, je me dis, oh mon Dieu, nos grands-parents. Et l'eau chaude qui coule sur l'évier.
On est loin de la bue.
Il sait tout.
Ancêtres.
Il sait tout. Il est incroyable. Il a tout lu. L'abus, vous avez raison. Oui, au coin de la cheminée. Un immense cuveau de bois sur un trépied avec un trou en bas, avec une poignée de paille pour que l'eau puisse couler tranquillement, avec un seau en dessous. Le linge, de l'eau bouillante, un grand drap plein de cendres. C'était la cendre qui donnait la potasse. Qui allait laver permettre de laver. Évidemment, après, il y a le travail de la planche à laver, bien sûr, dehors, dans la rivière ou dans l'étang. Et puis, à côté, la cheminée, où on récupérait sans cesse l'eau qui coulait dans le seau en dessous, on la reportait dans la grande marmite sur dans l'âtre, sur le feu de cheminée, et puis on versait l'eau bouillante, elle coulait, et sans arrêt. Ça a duré une matinée.
Nous sommes un peu loin de tout cela maintenant, performantes machines à laver le linge. Performante, vous l'êtes aussi, Pauline Barroyer. Donc, je rappelle les titres des contes où l'on retrouve une façon de vivre loin de nous maintenant, mais que vous faites ressusciter avec beaucoup de talent et avec plaisir, me semble-t-il.
C'est très gentil.
Les contes du Bas-Persan, les contes du Colombier, les contes de la Gravotière, les contes de Champlafitte et les contes du Port-Pendu. Je rappelle les titres de vos romans. Donc d'abord le premier, Délices et Désillusions. Le plus récent a pour titre Les Sycophantes, donc qui vient de ce mot grec qui désigne en fait la figue.
Oui, c'est ça. Je pense que le mot sucre doit venir de là. Parce que vous savez, il y a toujours un petit dépôt blanc sur les figues quand elles sont sèches. Je me suis toujours posé la question, je n'ai pas vérifié. Oui.
Et le recueil de nouvelles, Correction, au pluriel, aux éditions La Cassine. Et puis, alors, un petit mot de Laurent Bureau, Pâtre, passeur d'âme. C'est un récit historique, toujours sous votre plume. Pauline, parlez-nous-en, s'il vous plaît.
Oh. Alors, vous savez qu'il y avait ce Courtépée, cet homme est Claude Courtépée, je crois, qui est né à Saulieu et qui a été un savantissime curé et qui a publié, oh, il l'a pas vu publié, il est mort avant la publication. C'est juste avant la Révolution. Il vivait donc au XVIIIe siècle, donc on va dire la grande moitié du XVIIIe siècle. Et il avait recherché tout ce qui concerne le Grand-Duché de Bourgogne, tous les villages, Lyon y compris bien entendu, la Bourgogne, hein, tous les villages ont été étudiés à travers les archives, les manuscrits qu'il pouvait trouver. D'ailleurs, il avait ses entrées, j'imagine, dans tous les châteaux, puis chez tous ses collègues prêtres. Et pour Liernais, il a trouvé et donc écrit, ou je l'ai lu, l'histoire d'un petit berger, peut-être de 10 ans plus jeune que le Charles le Téméraire, on suppose qu'il était né en 1445 à peu près, qui a été, je suppose, reconnu comme étant d'une intelligence supérieure, peut-être par le chapelain, peut-être par un moine qui passait par là. En tout cas, il a été emmené à Dijon chez les moines, les Carmes, où était l'ancien rectorat, par là, vous voyez. Bon. Oui. Et il a appris les rudiments, bien sûr, là, le rudiment, comme on disait. Et puis, et on l'a envoyé à Paris, dans ce lieu qu'on appelait non pas le quartier latin à l'époque, mais le pays latin, c'est-à-dire la rive gauche, où on ne parlait que latin, car il y avait des écoliers qui venaient de partout, d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Suède, de Portugal, d'Italie. Et c'est là que donc la première université a été créée. Et là, comme il était, je suppose, d'un Carmes. Les franciscains, les carmes et les dominicains ce sont des ordres prêcheurs, et je pense que c'est par ces prêches qu'il a été conduit chez le roi, auprès du roi de son temps, Charles VIII, puis Louis XII. On est à la fin du XVe siècle et il est devenu confesseur des rois. Donc, je pense que c'est Charles VIII qui l'a nommé évêque de Sisteron. Et il a été très proche. Il a été, il a été bien sûr mandaté par le pape. Il a été un personnage, je suppose, si important qu'il était là aux États de Blois, où l'on s'interrogeait, ou plutôt où on était en train de régler la question de la petite fille, la toute petite Claude, qui sera un jour Claude de France, qui était la fille du roi Louis XII et la fille d'Anne de Bretagne. Or, la question était grave, car en Espagne, on pensait bien la marier à un tout petit garçon qui s'appelait Charles de Luxembourg, qui sera le futur Charles Quint, car elle sera héritière de Bretagne. Vous imaginez ? Le royaume de France entouré, la Bourgogne qui part justement à Charles Quint, puis la Bretagne. Et là, il a été empoisonné le lendemain, à cette occasion-là. Et puis finalement, ce mariage ne se fera pas, ces fiançailles ne se feront pas. On sait que la petite Claude de France sera mariée au futur François Ier, dont Anne de Bretagne ne voulait absolument pas. Elle était jalouse, elle n'en voulait pas. Bon, néanmoins, c'est comme ça que François Ier, qui n'est évidemment pas de ligne directe, qui n'était qu'un cousin, deviendra le premier François, roi de France.
Laurent Bureau, pâtre, pasteur d'âme, donc récit historique, oui, sous votre plume aux éditions, oui, de La Cassine. Oui. Comment faire pour se procurer vos ouvrages ?
Alors, je ne me suis adressée qu'une fois, il y a longtemps, à la librairie d'Avalon, qui est réputée, je crois. Bon, je ne les avais pas intéressés, mais comme ils doivent écouter votre émission, s'ils veulent s'intéresser à moi, je leur porterai volontiers ces ouvrages.
Si d'autres auditeurs, parce qu'on nous écoute aussi, oui, sur, oui, le site d'archives, oui, de l'émission, et disons que le site révèle qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent au Québec, hein, oui, au Canada francophone, ou en Suisse, il y a beaucoup de visites, il y a quand même pratiquement, on va dire presque 9000 visites mensuelles sur les podcasts de Wagon Livre. Alors, vous laissez un mail,
c'est
Pauline.
Ça. Le mail, c'est la façon la plus facile. C'est lacassine21@yahoo.com. lacassine21@yahoo.fr.
lacassine21@yahoo.fr. Lacassine, L-A-C-A-2-S-I-N-E.
Voilà.
Merci Pauline Parvoyer d'avoir été avec nous dans ce numéro.
Qui doit remercier l'autre ? Êtes-vous bien sûr ? C'est moi qui vous remercie.
Merci Pauline. Prochain rendez-vous de Wagon Livre la semaine prochaine. Et merci d'avoir été des nôtres avec notre invitée Pauline Parvoyer, que j'invite à reprendre la route prudemment jusqu'à Liernais, en Côte d'Or voisine. Au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Au revoir à tous et à toutes.